Single Jungle, le podcast des célibataires. Et là, j'ai fait le choix, moi, de maintenant de ne plus jamais être en couple. Et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Si c'est le choix de la facilité, bah, je vous invite tous à choisir la facilité, parce que la facilité, c'est cool, en fait. Hein, donc, et vraiment, s'il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes, ou même des seniors qui nous écoutent, vous n'êtes pas obligés d'être en couple. Si vous êtes heureux comme ça, c'est très bien.
Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Christine Béroux. Bonjour Christine.
Bonjour Louisa.
Nous allons parler de ton livre qui s'appelle « Le jour où j'ai rencontré le connard de trop » aux éditions First. Mais avant toute chose, on se présente, donc je commence. Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis hétéro, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Je suis donc une femme racisée, je suis aussi une femme grosse. En termes de classe sociale, je suis une transfuge de classe. Ça veut dire que au départ, j'étais plutôt d'origine classe ouvrière, classe moyenne par mes parents. Et par mon parcours, eh bien maintenant, je suis dans les CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, cadre dans la communication. Je gagne plus de 2000 euros par mois net, ce qui me situe dans la minorité de Français qui gagne cette somme, source Observatoire des inégalités. Voilà, et je ne suis pas en situation de handicap. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, évidemment. Je suis célibataire. Christine, si tu veux donner un peu le même canevas, tu peux.
La même présentation, je suis en train de me dire, ah là, faut que j'ai pas donné mon salaire.
Voilà. Non, tu moi, dis ce que tu veux.
Moi, je suis Christine, donc j'ai 41. Je me prépare psychologiquement au 42. Bah, comme toi, cisgenre hétéro, bretonne. Et puis, que dire d'autre c'est bien déjà. Non ?
Oui.
Moi, je ne peux pas dire mon salaire parce qu'il y a des mois, comme je suis autrice, humoriste, il y a des fois où je gagne zéro, il y a des fois où je gagne trop. Et donc, en fait, voilà.
Et le statut célibataire ou pas célibataire, est-ce que tu veux le situer ?
En fait, moi, je trouve ça dommage de se mettre cette étiquette-là. Qu'est-ce que ça apporte, tu vois ? J'ai fait un podcast récemment pour expliquer que moi, j'ai fait le choix de ne plus jamais être en couple et j'ai fait le choix de l'abstinence. Donc, je n'ai pas de vie sexuelle et je ne souhaite plus en avoir. Donc oui, par défaut, je suis célibataire, du coup, évidemment.
Oui, après, ça pourrait être un autre type de relation. Je vous remettrai des définitions que j'ai apprises là récemment.
Je pense qu'on ne devrait pas le mentionner, tu vois. Parce que, tu vois, tu parlais de ta couleur de peau, etc. Mm-hmm. Je pense que oui, factuellement, une couleur de peau, ça peut faire une différence.
Ouais.
Parce que les gens sont pas... Enfin, voilà, on est dans un pays qui est problématique à tout point de vue. Et en revanche, le fait d'être célibataire ou pas, est-ce que c'est une plus-value, moins-value ? Qu'est-ce que ça change dans ta vie ?
Alors, je peux te donner un exemple. Les célibataires, par exemple, au travail, lorsqu'on doit poser nos congés, il arrive qu'on nous dise « Mais toi, t'es célibataire. Et puis, en plus, t'as pas d'enfant. Donc, t'es pas obligé de prendre forcément Noël ou autre. »
Ah, je savais pas qu'il y avait cette discrimination-là dans le milieu bureaucratique. D'accord.
C'est ça.
Ok. Écoute, tu m'apprends quelque chose. Ah bah oui, alors mentionne-le. Puisque oui, effectivement, si ça définit ta personne et la façon dont on te traite, alors oui, il faut le...
Alors que tout le monde a droit à des congés, quel que soit son statut.
Bien sûr. Évidemment.
Ok, on s'est bien situé. Donc, je suis tombée sur ton livre et comme beaucoup de gens, j'ai vu la vidéo de Blast où tu as pu décortiquer assez longuement. D'ailleurs, merci à Blast de faire ce type de format. On peut aller dans le fond. Donc, ce titre-là qui est quand même assez fort, « Le jour où j'ai rencontré le connard de trop », c'est toi qui l'as trouvé ce titre ?
Oui.
Est-ce que c'était vraiment un espèce de... pas ras-le-bol, mais de dire « Bon, bah là, ça y est, on va se poser. » Puis partager vraiment avec les lecteurs et lectrices tout ton parcours et comment t'en es arrivé à cette réflexion-là.
Le premier titre, quand j'ai commencé à écrire, c'était La Déconstruction. Ça s'appelait La Déconstruction parce que j'ai déconstruit énormément de choses à travers cette histoire. Et puis, comme mon précédent livre s'appelait Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi, je me suis dit que j'allais peut-être commencer une saga un peu comme ça, des jours où je... Voilà, et c'est mon Martine à moi. Martine et la plage, Martine à la montagne. Là, c'est mon Martine et le connard, Martine et la toxicité. Et un jour, le titre m'est venu comme ça a fait bam. Et mon éditrice a dit, bon, on met un titre provisoire. Et en fait, toutes les fois où j'en parlais auprès de mes copines, ça faisait comme une claque, tu vois. Le jour où j'ai rencontré le connard de trop, bam. Et j'aime bien ce qu'il y a le mot connard dedans. Et surtout, ça marque un stop et un nouveau jour aussi. C'est-à-dire, de façon sous-jacente, dans ce titre, il y a « à partir de maintenant, je ne ferai plus les mêmes erreurs ». En tout cas, j'espère que c'est ce que ça transmet.
Oui, et puis alors, il y a le parcours avec les différentes relations, ces coups de cœur, ce truc d'analyse des messages qu'on va envoyer, bien le préparer en amont, avoir presque un comité de lecture en amont et après. C'est vraiment un truc d'époque, j'ai l'impression qu'on fait plus ça maintenant qu'on l'aurait fait il y a quelques années.
Je pense pas, honnêtement. Excuse-moi, Louisa. Parce que, en fait, je pense que c'est pas un problème d'époque, c'est un problème d'enjeu émotionnel. C'est-à-dire, on a tellement peur que l'autre ne veuille pas nous, on a tellement peur de faire mauvaise impression auprès de l'autre, qu'on va mettre dans ces petits messages énormément de pression. Ça devient même plus des messages, ça devient des mots de passe. On se dit, c'est le mot de passe pour accéder à son cœur. Donc, qu'est-ce que je peux bien lui dire pour... On oublie d'être sincère et authentique. Et non, je pense que c'est là depuis la nuit des temps. On connaît tous la pièce Cyrano de Bergerac, le personnage de Christian qui se met une pression pas possible parce qu'il se rend bien compte qu'il n'est pas à la hauteur de Roxane et il propose à Cyrano d'écrire à sa place les messages. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a envie de plaire à l'autre. Donc, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'enjeux émotionnels. Il fut un temps sur les papyrus ou les tablettes en argile pour transmettre à l'élu de leur cœur leur affection.
Mais aujourd'hui, il y a cet enjeu de, effectivement, est-ce que je vais plaire? Est-ce qu'on va se comprendre? Et on sent dans les différentes rencontres que tu as pu faire et aussi les témoignages que tu as reçus, on n'arrive pas à se parler. Enfin, il y a un vrai problème de communication, de compréhension. Je vais prendre par exemple l'exemple du ghosting, typiquement. Quand on pose la question aux hommes et quand on pose la question aux femmes, là je suis dans un schéma hétéro, c'est pas les mêmes enjeux. Il y a des femmes qui répondent, moi j'ai peur de sa réaction, je pense lui avoir expliqué, avoir été claire et j'ai peur qu'il devienne vraiment violent verbalement et plus. Et donc je bloque. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais on a eu ce type de retour. Et pour les hommes, majoritairement, quand on leur pose la question de pourquoi tu ghostes, donc tu bloques et tu ne donnes plus jamais de nouvelles à la personne, la première réponse qui vient c'est flemme de m'expliquer et ouais, mais je vais peut-être la blesser, faut que je trouve les mots et double flemme. Donc peur de blesser qui se cache un peu derrière cette flemme paresse. Donc il y a voilà cette différence d'approche et au final on n'arrive pas à se parler et se dire simplement les choses parce que si je dis ça, je vais passer pour needy ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Bah oui, bien sûr, je viens d'écrire une thèse là-dessus. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, on parlait des enjeux émotionnels des messages. Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque des papyrus? C'est le choix. C'est-à-dire qu'avant, on allait à la fête du village quand on avait 17 ans et on rencontrait la personne qu'on allait épouser. Et puis, on n'avait pas le choix, on n'avait pas le temps. Il fallait fonder une famille, il fallait récupérer le commerce des parents, il fallait récupérer la ferme, etc. On n'avait pas le temps de se poser la question de... voilà. Maintenant, avec les applis de rencontre et la possibilité de vivre, bon, sauf apparemment quand on veut des vacances, mais la possibilité de vivre célibataire en paix, maintenant, on a cette possibilité de switcher, d'avoir beaucoup de partenaires, on a beaucoup de choix et ça change tout. Parce que, effectivement, si c'est pas la personne d'après, peut-être que celle d'après, je pourrais avoir mieux. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est que, en fait, maintenant, quand on rencontre quelqu'un, on va se dire oui, mais peut-être que je pourrais avoir mieux, ou peut-être que ça pourrait, tu vois, au moindre problème, on va se dire ah, bah, je romps et je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Bon, ça n'existait pas avant. Quant au ghosting, bah, c'est pareil. Comme les gens sont devenus un peu interchangeables, on se dit que finalement, les gens n'ont plus de cœur, n'ont plus d'âme. Ça devient juste des personnages dans une série qu'on change. Voilà. Et en fait, il faut éduquer les gens. C'est-à-dire que alors d'un côté, j'ai envie de dire aux hommes, ben oui, flemme. Et voilà, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas ce que la personne a traversé avant de vous rencontrer. Et un message juste pour dire les choses, ça peut vraiment tout changer, en fait. Même si la personne, elle va être blessée. C'est ce que j'écris dans le livre. C'est je dirais, quelqu'un à qui on dit, ben, finalement, je ne suis pas intéressée. Elle ou il va peut-être être blessée pendant quelques semaines, mais elle va pouvoir faire un deuil dans de bonnes conditions parce qu'elle a été traitée avec humanité. Quelqu'un à qui on ne répond plus, on va laisser un écran blanc sur lequel la personne va pouvoir projeter toutes ses angoisses. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mon connard la première fois qu'il m'a ghostée, puisque oui, il y a eu plusieurs fois parce qu'il est revenu et j'y suis retournée, et c'est de ma faute. Bah, en fait, je me suis repassée notre soirée dans les moindres détails en me disant bah, qu'est-ce que j'ai dit et pourquoi j'ai dit ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Parce qu'en fait, dans le silence, je mettais toutes mes peurs en fait, et toutes mes failles. Quant à la peur d'être agressée, la peur de susciter chez l'autre une réaction violente, Bon, bah ça, malheureusement, on sait que c'est le risque zéro n'existe pas. Mais je pense que quand on a eu un rencard ou un rendez-vous avec quelqu'un ou qu'on a été intime avec une personne, on peut déjà voir si la personne, elle a un démon ou pas en elle. C'est quand même assez rare le nombre de fois où je suis tombée, le temps d'un date en tout cas, sur des hommes violents. J'ai rarement eu peur, moi, de ce genre de réaction. C'est rien, un SMS pour dire écoute, finalement non. Moi, le pire que j'ai eu, je le raconte dans le livre, c'est un, je l'appelle le DJ, qui a eu le malheur de tomber amoureux de moi et qui m'a envoyé des messages pendant plusieurs mois. C'était insistant parce qu'il n'arrivait pas à faire le deuil de moi, apparemment. Et bon, j'ai répondu à chacun de ses messages cordialement, sans nourrir aucun espoir, parce qu'il ne faut surtout pas faire ça. Et, mais je l'ai fait parce que c'est nécessaire.
Oui, puis c'est une marque de respect, je trouve, aussi.
Bien sûr. Oui, j'ajoute que mes copines, elles me disaient « pas de réponse, c'est une réponse ». Non,
ah oui.
Pas de réponse, c'est un manque de respect et c'est valable dans tous les domaines, l'amour, le pro, le tout.
Je voulais rebondir sur le fait que quand on a fait un rendez-vous ou deux, intime ou pas, avec quelqu'un, on peut peut-être repérer un peu comment il fonctionne. Je vais prendre l'exemple d'un date que j'ai eu où il y a eu... un premier rendez-vous, ensuite il m'a ghosté, j'ai pas compris pourquoi, il est revenu pour m'expliquer qu'en fait il ghostait toutes les femmes après le premier rendez-vous, que c'était son fonctionnement, et que là il revenait parce qu'il pensait que finalement il avait sans doute fait une erreur, qu'il était passé à côté de quelqu'un, blablabla. Et on se revoit, et il se passe des choses que j'ai pas forcément envie d'avoir, il embrasse facilement pour en fait éviter le dialogue. Même il le disait verbalement, il disait bah j'ai trouvé un moyen de te faire taire et hop il m'embrassait. Je disais ouais mais non. Bref, quand j'ai décidé que franchement cette relation elle est bien pourrie et je pèse mes mots, j'en ai parlé à ma psy. J'ai dit mais moi je romps pas entre guillemets par SMS, je préfère voir la personne. Mais lui je sens que je ne le connais pas assez. Et qu'il a des réactions bizarres, et que si on se balade sur le quai, je pense à Jaurès où je vais souvent, il y a deux cinémas qui sont face, c'est quelqu'un qui peut-être serait capable de me pousser dans la scène. Je visualise la scène. Et donc ma psy m'a dit, si vous sentez ça, c'est pas interdit de faire une rupture par message. Ça reste une rupture, en tout cas ça reste un message de fin. Il n'y a aucune obligation dans vos principes ou quoi à vous présenter physiquement pour dire au revoir. Donc parfois il faut sentir aussi ce truc. Et plutôt que de le blesser en me disant « si je fais ça par SMS, il va être blessé », attends, c'est pas lui qui m'a ghosté au départ. Si, c'est lui qui est revenu après. Pourquoi j'aurais plus de bonté d'âme avec lui que lui n'en a eu pour moi, tu vois ? Donc, j'ai fait ça, j'ai fait par SMS et il a eu des mots assez agressifs, voire des insultes. Et je, j'ai bien fait parce que qu'est-ce qui se serait passé en vrai ?
Oui, parce que souvent, ce sont des gens qui ont un ego fragile. Ce qui les blesse, c'est pas tant de perdre quelqu'un, c'est que ce soit pas eux qui aient viré avant de se faire virer, malheureusement. Quand il dit « c'est mon mode de fonctionnement », ça, excuse pourrie, ça ne veut rien dire. Un tueur en série qui tue toutes ses partenaires, il pourra dire « oui, c'est mon mode de fonctionnement, j'aime bien quand elles sont mortes après, comme ça elles peuvent plus avoir d'autres aventures ». Enfin voilà, c'est pas valable. D'un point de vue intelligence émotionnelle, ça ne vaut rien. Mais je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai mis fin à une relation de 3 ans en 2013 par téléphone avec un homme qui avait eu des épisodes de violence et qui avait déjà été condamné par la justice. Donc, je pense qu'effectivement, l'important, c'est de se choisir en premier, de se mettre en sécurité. Et surtout, malheureusement, avec tout ce qu'on sait. Les chiffres sont là, malheureusement. Messieurs qui nous écoutaient, je suis désolée, mais les statistiques ne sont pas en votre faveur. Ce sont les hommes qui tuent, malheureusement.
Oui, puis c'est dit dans le livre et aussi par pas mal de militants en général. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez rien de son passé, d'éventuels traumas. Alors, sans être sur le grill tout le temps en se disant « mais attention à tout ce que je vais dire », peut-être se dire qu'on connaît les chiffres de femmes qui ont subi des agressions sexistes, sexuelles. Dès lors que vous savez que vous allez rencontrer une femme, il y a des chances qu'elle ait vécu ce genre de choses.
Une chance sur 5.
Donc, peut-être, ne pas faire de blagues sur le sujet, parce que ça ne sera pas forcément bien pris. Et puis, il y a une façon de faire les blagues, peut-être aussi, c'est peut-être pas votre métier. Voilà, moi, je ferai attention à ce type de sujet. Et après, il y a d'autres sujets qui vont vous donner peut-être le beau rôle. Là, je pense à quelqu'un que j'ai croisé. Paris est tellement petit, des fois, on n'a pas envie de croiser certaines personnes. Et lui me disait... je suis ravie de te croiser, ça fait longtemps, j'avais tellement envie, le mec était vraiment là pour parler de lui, pas pour prendre de mes nouvelles, j'avais tellement envie de te parler de mes vacances, pas maintenant en fait, mais parce que je te jure l'Antarctique, et je dis écoute, là non, j'attends quelqu'un, on s'est croisé, ok, mais tu sais moi ça heurte mes valeurs que quelqu'un puisse partir en vacances en Antarctique, en termes d'écologie, pour moi les manchots devraient voir des scientifiques comme être humain, et peut-être des populations locales, et c'est à peu près tout. Toi, on sent bien que tu es allé là-bas, pas pour la faune et la flore ou quoi, c'est pour pouvoir te précipiter et dire j'ai fait ça, j'ai vu ça, regardez les manchots de près et dire bah vraiment on a vraiment pas les mêmes valeurs, t'es toujours dans ton truc de gauche là. J'ai dit mais pourquoi je fréquente toujours cette personne là. Tout ça pour dire que les valeurs des uns et des autres, vous les connaissez pas à l'avance quand vous allez les rencontrer lors d'un date, et ça peut se déceler par ce type de sujet. Et pour moi le premier effectivement c'est de protéger la personne, qu'elle se sente en sécurité, et donc ne pas commencer à faire des blagues sur les violences ou on peut plus rien dire. Tiens, j'aimerais qu'on évoque le cas de Pardieu.
J'ai envie de te dire, dans quel contexte on peut faire des blagues sur les violences, enfin,
c'est là, moi, ça me fait
c'est incroyable. Moi, je suis Maurice, c'est mon métier de faire des blagues. Quelquefois, il y a des blagues qui me viennent parce que mon cerveau est fabriqué pour faire des blagues, mais c'est pas pour ça que je vais te dire. Sur Depardieu, j'en aurais un tas, tu vois, mais enfin, j'ai aucun contexte. Les blagues sur les violences, je vois pas où, quand, comment. Enfin, je vois pas à quel moment ça peut être drôle. Je peux apprécier la technique d'une blague si elle est bien amenée, si elle est bien construite, etc. Mais sur le fond, je vois pas comment on peut rire des violences. Je vois pas.
Ou alors, faut pas avoir d'empathie pour les victimes.
Oui, c'est ça, oui. Limite, moi, je peux rire d'une blague sur les violences faites aux femmes si c'est la victime qui fait une blague. Là, je me dis, waouh, la résilience. Tu vois ce que je veux dire? Si, j'en sais rien, je prends un truc au hasard, mais si l'ex-femme de Katniss dit, bah dis donc, son discours nous a mis une claque, oh, c'est pas la première fois. Tu vois, là, c'est la victime, je peux dire, wow, respect, elle a vachement de courage de faire des blagues là-dessus, tu vois ce que je veux dire?
Je crois qu'il y a Tania Dutel qui parle de,
tout à
de
fait.
Ça sur scène.
Tout à fait.
Et Tristan Lopin aussi, il le fait à sa manière aussi, où au départ, on ne s'attend pas à ce qu'ils parlent de ça.
Bérangère Krief aussi.
Voilà, donc c'est peut-être une façon pour eux et pour elles d'exorciser le truc, de l'intégrer dans leur art et bah, grand bien leur fasse. Après, il faut un public averti, qui est ouvert peut-être.
Oui, il faut peut-être mettre un petit warning. C'est compliqué. Moi, je sais que j'ai essayé de sur scène de parler de mes traumas. Je n'ai pas encore trouvé le bon angle, mais je suis prête à en rire. Après, il faut que ça soit marrant, quoi. Faut pas prendre les gens en otage non plus, parce que déjà que le sujet est compliqué, alors si en plus c'est pas marrant, toi-même tu perds, parce que t'es là pour faire marrer les gens, tu perds un peu en rythmique.
Après, je pense qu'on peut rire de tout, pas avec tout le monde, c'est pas de moi, mais il y a parfois des blagues qui sont, entre guillemets, objectivement drôles, mais nous, ça nous touche. Et c'est pas pour autant que elle est pas drôle, la blague. Moi, je vais prendre un exemple. Moi, toutes les blagues autour de l'amputation, alors, ça me faisait pas rire avant, mais là, maintenant, je vais tiquer parce que j'ai une maman qui a subi une amputation. De même, tout ce qui est autour du diabète, et combien de journalistes qui faisaient des blagues en mettant un plat très savoureux, mais très riche, ou des sucreries en disant « c'est parti pour le diabète ». Et j'ai mais moi, ça me heurte. Sache-le, après tu en fais ce que tu veux, je vais continuer à suivre ton travail, mais tu sais le nombre de morts qu'il y a à cause du diabète, et tu sais les maladies connexes au diabète, enfin, c'est un drame, cette maladie chronique. Et donc, on me disait, ok, je comprends, en fait, pour moi c'était juste drôle, j'imaginais pas que ça puisse toucher des gens. Peut-être que certains ont besoin de prendre conscience de ça avant de faire leur blague, après bon, peut-être si ça me choque trop, j'irai plus regarder, quoi.
J'ai une théorie là-dessus, je pense qu'on n'arrive pas à en rire quand on nous a pas pris au sérieux déjà. C'est-à-dire que si déjà on n'a pas pris ton trauma au sérieux, si on n'a pas pris ta maladie au sérieux, si en plus on en rigole, tu vois, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire ? Mmh. Alors que moi, si dans mon cercle d'amis, j'ai un problème et que je sens qu'on a pris mon problème au sérieux, qu'on m'a écouté, qu'on m'a épaulé et qu'un copain fait une blague, je fais c'est ok parce que mon statut de victime a été considéré, etc. Et que maintenant, je comprends que mes confidents aient besoin aussi de prendre un peu de légèreté vis-à-vis de ça, parce que ça les a forcément heurtés aussi, puisqu'ils sont dans mon cercle proche. Je pense que t'es heurté quand on parle du diabète, parce que tu estimes que on prend pas ça assez au sérieux, que tu le subis, que c'est dur pour toi. Alors en plus, on te fait une blague, tu te sens pas du tout considéré, c'est un manque de respect, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Si le diabète, c'était une cause nationale, que c'était vraiment super pris au sérieux, que c'était mieux remboursé par la Sécu, que vraiment, et que quelqu'un en qui t'as confiance fait une blague, tu vois, ça passe. Enfin, vraiment, c'est une chimie qui est très précise. Enfin, je pense, hein. Qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, là, au moins, à la limite, si certaines personnes peuvent prendre conscience comme ça et peut-être devenir des relais en disant, bah oui, j'en fais une blague, mais bah, sachez que ça serait bien de vous faire tester parce que il y a un diabétique sur deux qui sait pas qu'il est diabétique et qui le découvre aux urgences. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puisqu'on est sur le domaine de l'humour et qu'il y a une actu au moment où on enregistre cet épisode, Donc, il y a eu plusieurs accusations concernant un humoriste qui s'appelle Seb Melia. C'est Florence Mendez, elle aussi, autrice humoriste, qui a relayé ces messages de femmes victimes à certains niveaux pour certaines et d'autres où c'était beaucoup plus clair dans les textes. Vous irez voir. Maintenant, c'est pris en charge aussi par plusieurs associations que je vous citerai. Toi, tu as publié un message sur Instagram. Est-ce que tu veux en parler ?
Oui, je pouvais pas ne pas réagir vite puisque je suis très engagée contre les violences faites aux femmes, comme tu le sais. Je suis assez réactive sur les réseaux sociaux quand quelque chose me choque ou me touche de près. J'ai notamment fait une vidéo il y a quelques jours suite aux propos de Emmanuel Macron concernant Gérard Depardieu. J'ai réagi le soir même, j'étais très en colère. Et donc, c'était très délicat pour moi, puisque Seb Melia j'ai envie de dire qu'il est toujours mon ami, mais un ami proche. C'était mon ami depuis plus de 15 ans. J'ai fait beaucoup de podcasts avec lui. En fait, le truc, c'est que quelques jours avant, j'essayais de me mettre à la place de Carole Bouquet, parce qu'elle est intervenue sur Quotidien, elle est proche de Depardieu, et je m'étais demandé, moi, qu'est-ce que je ferais à sa place. Et je m'étais dit, quand un proche s'avère être un agresseur, on lui ferme pas la porte, parce que j'imagine que c'est le rôle des proches d'éduquer ces gens. Moi, j'ai eu des agresseurs, et je serais très contente que des gens soient là pour les éduquer, pour leur expliquer ce qu'ils ont fait de mal. Et j'étais tout à fait prête à être cette personne-là pour Seb Melia, s'il le souhaitait. Et je voulais pas faire ma Carole Bouquet, c'est-à-dire je voulais pas... Oui, je suis féministe, oui, je suis contre les violences faites aux femmes, sauf quand ça touche mes amis. Non, je veux dire, c'est un engagement qui est sans concession. Et donc, cet engagement que je prends, moi, c'est de croire les victimes aveuglément, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, en fait, on croit les victimes, elles n'ont aucun intérêt à inventer, elles n'ont aucun intérêt à se faire subir ça, je les crois. Par défaut, je crois les victimes. Donc, c'est poser la question de mon amitié avec Seb Melia. Seb Melia est toujours mon ami, sauf qu'il ne répond plus à mes messages. Mais en tout cas, il sait que je le lui écris. Je peux être l'ami qui l'accompagne dans cette épreuve s'il avoue, s'il demande à être aidé, à guérir, à parler, à être... à traverser ce processus judiciaire, à payer sa dette aux victimes et à la société. Moi, je suis l'ami qui sera là pour lui parce que on peut pas non plus laisser mourir les agresseurs dans la honte et voilà, on est des êtres humains et réclamer un monde plus juste pour les victimes, c'est aussi réclamer un monde plus civilisé et je crois pas, moi, œil pour œil, dent pour dent. Et encore une fois, je le dis en toute bonne foi, moi, j'ai eu des agresseurs. J'en ai eu un en particulier qui m'a abusée quand j'étais toute jeune. S'il a des amis, des proches, évidemment, je ne vois plus cette personne, mais qui sont là pour lui dire un jour, en fait, ce que tu as fait, c'est grave et c'est mal et tu dois aller en prison. Je serais contente qu'il y ait des gens qui lui disent ça et qui soient là pour aller le voir en prison, en fait, et pour l'attendre à la sortie. Même les agresseurs, même les tueurs ont droit d'avoir de l'humanité dans leur vie, en fait.
Merci pour ces mots. Je vous mettrai plusieurs références peut-être qui peuvent aider au-delà des associations, bien sûr. Il y avait un épisode de C'est compliqué de Slate fait par Lucille Bélan où elle répondait à la question justement d'une auditrice qui était confrontée à ça et elle savait pas si elle devait rester en contact avec cette amie ou pas. Et elle cherchait des réponses. Et il y avait donc plusieurs pistes. Vous êtes libre après de vous dire, j'ai besoin de distance ou j'ai besoin de, au contraire, de le confronter, de parler, de l'entendre. Voilà, il n'y avait pas forcément un avis tranché. C'est à vous de décider.
En vérité, posez-vous la question. Mon corps est un temple. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des échanges intimes avec un homme qui traite les femmes comme ça ? Comme des objets, comme des travailleuses du sexe. Malheureusement, c'est terrible. Et je le dis avec d'autant plus de compassion que je l'ai vécu aussi. Et j'en parle dans le livre d'ailleurs. Donc, j'imagine que le passage où mon connard me demande de venir le sucer dans son bureau a dû te.
Ça a réveillé des choses.
J'en suis désolée, mais tu vois, ça prouve que c'est quand même un mode de fonctionnement.
Oui.
Tu vois que les hommes ont besoin d'avoir des femmes à leur service, que c'est important pour eux d'avoir cette emprise-là, de claquer des doigts, d'avoir. Jamais il nous viendrait à l'idée, nous, de demander à un homme de venir chez nous. Jamais, quoi.
Et j'en viens justement à le fait qu'on peut garder contact, dans le sens où même si on a été ghosté, bloqué, pour différentes raisons, ça, par contre, pour moi, c'est un truc peut-être d'époque, on peut, par les réseaux sociaux, par Internet, savoir que la personne vit toujours sa meilleure vie, va très bien, mais sans nous. Nous, on n'est plus dedans. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disent « j'arrive pas à tourner la page parce que je le vois en train de vivre son truc. » Et puis, moi, j'ai pas réussi à clore le chapitre et ça me perturbe, mais je peux pas m'empêcher d'aller voir ce qu'il fait. Et il y a un truc très toxique là-dedans.
Bien sûr, là, il y a deux choses à dire. C'est que déjà, la personne vit sa meilleure vie. Écoutez, c'est Instagram, hein, c'est les réseaux sociaux. Hein. On vit tous notre meilleure vie sur les réseaux sociaux. Hein. Donc déjà, ça, faut prendre avec des pincettes. Hein, de se dire, la personne, elle montre bien ce qu'elle a envie de montrer. Deuxième chose, oui, j'en parle aussi dans mon livre. En fait, le cerveau fonctionne comme l'algorithme de l'Instagram, ou plutôt l'algorithme de l'Instagram fonctionne comme notre cerveau, puisque c'est le cerveau qu'elle a avant. En vérité, plus on va s'intéresser à quelque chose, plus le cerveau va croire qu'on a besoin de cette chose. Par exemple, sur Instagram, si vous likez des photos de chatons, l'algorithme il va se dire « Ah, elle aime les photos de chatons, donc je vais lui en montrer d'autres. » Le cerveau est pareil. C'est en fait, si vous allez voir votre ex sur les réseaux sociaux, le cerveau va penser que c'est vous rendre service que de vous y faire penser. Ça a l'air d'être important, donc je vais mettre ce sujet-là en vitrine dans le cerveau. Et en fait, je vais lui faire penser régulièrement. Mais en fait, le cerveau, il pense pas à mal faire. Il fait son travail de cerveau. Ceci est important pour elle, donc je vais lui faire penser régulièrement. Et en fait, non, on rentre dans un processus addictif. Et donc, il faut couper court et se faire violence. C'est pour ça, oui, bloquer, c'est une très bonne solution. Et surtout, pas rentrer dans le... Parce que bon, j'ai traversé l'enfer, je suis passée par toutes les étapes. Moi, je voulais pas le bloquer parce que je me disais, oui, mais je veux qu'il voit que moi, je vis ma meilleure vie. Donc, en fait, c'est sans fin. À un moment donné, il faut prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut de cette personne dans notre vie ou pas? Donc là, la jauge, enfin, la boussole, c'est votre bien-être. Est-ce que ça me fait aller bien d'aller tout le temps voir ce que fait l'ex? Ben, factuellement, non. Mm-hmm. Mon connard, ça a été un processus de deuil qui a été long. Je suis passée vraiment par toutes les étapes. Et je me rappelle qu'une des étapes finales avant que vraiment j'aille bien, parce qu'entre ne plus y penser et aller bien, il y a tout un monde. Je me rappelle que le livre était déjà sorti, j'avais eu des échanges avec lui suite à la sortie du livre, etc. C'était évident que j'allais plus jamais le revoir, je l'avais bloqué, etc. Et en fait, je pars faire le tour de l'Écosse et de l'Angleterre avec ma fille. Donc forcément, c'est un road trip assez long avec une petite fille de 5 ans qui dort à l'arrière. Et forcément, que fait mon cerveau? Je conduis. Je mets pas la musique parce que je veux pas réveiller ma fille. Donc ma fille dort, je suis toute seule dans une voiture sur des routes de campagne en Écosse. Que fait mon cerveau? Bah, il me ressort les dossiers, les trucs. Et en fait, parce qu'il se dit, ah bah, je vais lui rendre service. On a du temps là, je vais lui faire penser. Voilà. Et donc là, je pleure. C'est horrible. Ce fut la dernière purge d'ailleurs de larmes. Et ensuite, le soir, je scroll TikTok et là, je tombe sur une vidéo d'un gars que je connais pas qui dit he's not the one, you're just bored, you're bored. Et ça veut dire, il n'est pas le bon, tu es juste en train de t'ennuyer. Et en fait, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, en fait, juste mon cerveau, il est en vacances, il n'a rien d'autre à foutre que de conduire. Donc en fait, il m'en ressort. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste une habitude que j'ai prise d'être obsédée par ce gars, en fait. Donc maintenant, c'est fini. Et ce fut les dernières larmes en Écosse. Et après, je suis rentrée chez moi et je suis passée à autre chose. Et comme je le raconte dans mes récents podcasts, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai un avantage, entre guillemets, sur les autres. C'est que, bah, en fait, mon connard, le connard de mon livre, il est connu lui aussi. Et en fait, il fait énormément de conneries. C'est-à-dire qu'il est dans le milieu politique et vraiment, il a fait connerie sur connerie, ce qui m'a permis de voir de mes yeux vus à quel point cet homme était problématique, malaisant. Et donc, j'ai eu cette chance-là parce qu'il a été régulièrement updaté sur Twitter et la vie m'a vraiment fait ce cadeau de me faire un SAV de tu vois à quel point ce gars est un tocard. Enfin, je voudrais dire aux jeunes femmes, aux femmes qui nous écoutent et, ou même aux hommes hein, qui doivent faire le deuil de quelqu'un, à tous les coups, si votre connard ou votre connasse était connue, je suis sûre qu'elle ferait des conneries aussi parce que ce sont des connards et des connasses et ce sont dans leur ADN. Donc, je pense que vous auriez comme moi la preuve par des articles de presse que votre connard ou votre connasse est en dessous de tout. Alors, imaginez un monde où c'est le cas et voilà, vous auriez des preuves si la personne était connue. Il se trouve qu'elle ne l'est pas forcément. Soyez assurés que vous ayez fait le bon choix parce que si ce n'était pas des connards ou des connasses, vous seriez avec eux en ce moment même. Donc, voilà.
Et ce qui fait qu'on s'attache un peu trop et qu'on rêve l'histoire qui aurait pu avoir lieu avec la personne, tu le dis dans le livre, c'est on a cru y voir un potentiel. Mmh. Et en fait, quand on met bout à bout vraiment ce qu'il y a eu, de façon très rationnelle, comme un PV de police en fait, vraiment mettre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la personne nous a apporté, est-ce que les échanges étaient si positifs ou en fait, ça c'est la magie de la cristallisation, on met des trucs super beaux autour d'un truc. Non, il a juste dit, je sais pas, tel jour que t'étais jolie. Mais depuis, il y a eu 10 messages plutôt agressifs. Donc, factuellement, il y a eu plus de trucs agressifs ou plus de trucs sympas. Mais on voit un potentiel. Mais parce qu'il y a aussi cette quête de l'amour qui est tellement ancrée parce qu'on nous a élevés à ça. Donc ma question, ce serait, toi, tu as réussi à sortir de tout ça avec beaucoup de temps et d'énergie et parfois de peine. Est-ce qu'on peut réussir à déconstruire simplement en prenant une autre focale en disant, mais je sais même pas pourquoi j'ai vu quelque chose chez lui ou chez elle. Qu'est-ce que je cherchais vraiment? Ah, mais c'est parce que je cherchais l'amour. Et tout est parti de là. Si j'arrête, si je me dis, mais pourquoi je cherche l'amour? Est-ce qu'en fait, j'ai juste besoin d'amour pour moi-même? C'est vraiment un sujet que j'ai avec beaucoup de femmes en particulier. Je dis, je sais même plus pourquoi je fais des dates. Je sais plus. Parce qu'il faut que je sois en couple. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut que je sois en couple pour que je sois heureuse. C'est ça. Mais t'es sûre? Parce que, en fait, ça a l'air d'aller. Voilà. Il y avait ce petit défi aussi que tu te lançais. Je vais trouver quelqu'un en tant de jours. Cette pression que beaucoup se mettent. Toi, t'as réussi à te lancer là-dedans. Est-ce que le livre va permettre peut-être à certains de dire, tiens, bah là, elle se dit en 30 jours, je vais trouver, ou en je sais plus combien de jours.
Oui, alors, parce qu'en fait, il y a un livre dans le livre. C'est-à-dire voilà. Que ce que je raconte, c'est que, quand ça s'est terminé pour la première fois avec mon connard, j'étais tellement triste que j'ai décidé d'écrire un livre, Trouver l'amour en 30 jours, je ne sais plus combien, avant mes 40 ans. Ça m'a permis de dater beaucoup et de faire une cartographie assez étayée du monde du dating actuellement. Donc ça, finalement, c'est devenu des recherches et j'en suis très contente parce que ça a nourri le livre, donc c'est parfait. Mais plus jamais, évidemment, je me lancerai dans ce genre de quête. Et oui, il y a une injonction à être en couple qu'il faut déconstruire. C'est pour ça que mon livre devait s'appeler La déconstruction à la base. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rappeler pourquoi on a créé le couple. À la base, c'était l'Église. Parce qu'en fait, il fallait faire des enfants, parce qu'il fallait pas que le village... fallait faire des soldats, fallait faire des fermiers, fallait faire... voilà, c'est pour ça qu'on a créé le couple et le mariage. À la base, c'était pour que l'État, la noblesse soit bien assurée. Et encore, quand Macron parle de réarmement démographique, on est dans le même état d'esprit. Hein, c'est-à-dire, il faut des consommateurs, quoi. Il faut des gens pour consommer, c'est aberrant. Aujourd'hui, on est trop nombreux sur Terre. Donc, à un moment donné, ce n'est plus d'actualité, en fait. Et on réalise que... En fait, le corps n'est pas fait pour être en couple. Enfin, on n'est pas fait pour être en couple. Il se trouve que des fois, deux personnes se rencontrent et ça match et c'est super. Mais je vous invite à regarder autour de vous. C'est rarissime. Moi, vraiment, quand je pense à mes amis, j'ai peut-être deux exemples, dont un qui s'engueule tout le temps. Il n'y a qu'à voir comment les gens nous énervent. On dit l'amour dure 3 ans. Et je cite pas Beck BD parce qu'il est très problématique. Mais voilà, c'est factuel qu'au bout d'un moment, on ne peut pas vivre avec quelqu'un de vitam aeternam sans que la personne nous agace, nous énerve parce qu'on évolue, on est fait pour évoluer spirituellement, intellectuellement. Et que c'est quand même très rare que le partenaire arrive à nous suivre sur la durée dans un sens ou dans un autre. Enfin, à un moment donné, ouvrons les yeux sur cette injonction à être en couple qui est vraiment une construction. Enfin, qui ne repose sur rien et il est grand temps de se le dire et qui nous pousse à faire n'importe quoi. Et moi, j'ai des copines qui se précipitent dans les bras du premier connard venu. J'ai une copine, je vais pas dire son prénom, la pauvre, mais je l'adore. Si elle se reconnaît dans le podcast, vraiment, je l'embrasse très fort. Mais elle a rencontré un gars, elle me raconte une histoire de boîte de nuit où le mec, il a vomi et tout ça, c'est d'un glauque. Elle me raconte ça avec des paillettes dans les yeux parce qu'en fait, elle a tellement besoin d'amour qu'elle se retrouve à romantiser. Là, il est parti et il a vomi. En fait, vraiment, en fait, cette histoire n'est pas romantique. Mm-hmm. Mais il fallait qu'elle la rende romantique parce qu'il fallait que cet homme soit le bon parce qu'elle a 35 ans et que si cet homme-là n'est pas le bon, alors je suis vraiment dans la merde. Non, il faut vraiment déconstruire ça. Et moi, je me suis forcée. J'ai enchaîné énormément de dates. Ça ne m'a pas fait aller bien. J'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'argent parce qu'il faut dire les dates, ça coûte cher aussi. Et au final, je me suis retrouvée dans des situations qui étaient très inconfortables et déplaisantes. Et là, j'ai fait le choix, moi, de ne plus jamais être en couple. Donc, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait là-dessus. Et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et encore aujourd'hui, je me retrouve face à des réactions extrêmement problématiques. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je me suis retrouvée dans un dîner où quelqu'un m'a dit « C'est le choix de la facilité !» Mais la facilité de quoi? Enfin, je veux dire... Oui, bah, si c'est le choix de la facilité, bah, je vous invite tous à choisir la facilité parce que la facilité, c'est cool en fait. Hein. Donc, bon, bref, y a encore beaucoup à faire et vraiment, s'il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes ou même des seniors qui nous écoutent, vous n'êtes pas obligés d'être en couple si vous êtes heureux comme ça, c'est très bien. Moi, j'avais juste une envie très forte qui était la maternité. Depuis toujours, j'ai voulu, parce que ça m'a appelée, je veux dire, voilà, c'était une envie, j'avais vraiment envie d'être maman. Je le suis devenue. J'en ai fait une, c'est très bien. On est trop nombreux sur Terre. Voilà, j'ai une, c'est bien. Et voilà, et basta. Et juste, je tiens à dire que si j'avais pas trouvé quelqu'un pour faire un enfant, et j'ai pas trouvé quelqu'un pour un enfant, j'ai eu un petit ami, vraiment, ça a été une vraie histoire. Et je suis très amie avec le père de ma fille et je suis ravie de l'avoir choisi lui parce qu'il est très bien. Si je l'avais pas rencontré, je pense que j'aurais eu recours à la PMA, ou c'est sûr même, c'est sûr, parce que j'avais trop envie d'être maman. Donc voilà, même ça, on n'est pas obligé d'être en couple. Donc en fait, à un moment donné, ça ne m'aurait vraiment pas dérangé de faire un enfant toute seule. Voilà.
Oui, puis il y a l'adoption aussi, même si c'est bien plus sûr. Long. Enfin, y a
toutes et les... c'est pas exclu, moi. Je pense que dans quelques années, je pense qu'aussi, il n'est pas exclu que j'adopte, tu vois.
Oui. Donc on n'est pas obligé d'être en couple pour avoir un projet de parentalité. Moi, j'ai eu plusieurs invités comme ça qui veulent absolument décorréler le souhait d'être maman ou papa au fait d'être en couple, et ça se fait de plus en plus. Et je pense à Johanna Lucen notamment, qui a eu un enfant effectivement seul. Son livre s'appelle « Mère célibataire par choix ». Je vous mettrai toutes les références. Nos amis journalistes qu'on aime beaucoup aiment bien inventer des mots. Alors, après célibataire et couple, ils ont inventé « célicouple ». Je me dis « qu'est-ce que c'est encore ce truc ?» Et donc, ce serait un truc pas du tout nouveau, mais on met une nouvelle étiquette dedans. C'est le fait d'être en couple, mais de souhaiter rester chacun chez soi et de garder du temps pour soi. Alors là, on dit bien oui. Et qu'est-ce que ça change par rapport... en fait, c'est comme s'ils avaient un peu oublié qu'il y a déjà plus d'un million de personnes en France qui ont fait ce choix-là, qui sont en couple, mais chacun chez soi, pour différentes raisons. Parfois parce qu'il y a des enfants avec pas envie de faire une famille recomposée, ou c'est compliqué avec les gardes alternées, donc il faut que tu sois près de l'école. Bref, donc c'est compliqué et ils n'ont pas envie. Mais ça pouvait être décrié dans certains articles, notamment de presse féminine, de « mais vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas ensemble. Il vous manque donc cette étape-là, vous n'êtes pas encore un vrai couple. Bah » Là, nous validons votre choix, ça s'appelle « célicouple », vous avez gardé votre liberté, votre territoire et du temps pour vous. Et c'est super. Mais en fait, ça a toujours existé. Donc, OK. Si ça vous rassure de mettre un mot célicouple, moi, je trouve ça un petit peu bizarre.
Et ça va devenir un nouveau mot dans les bios Tinder.
Oui, je suis en célicouple.
Voilà,
oui,
c'est ça.
J'ai du temps pour moi quand même pour te voir. Hein. Mais madame n'est pas forcément au courant. Oui. Alors, du coup, c'est ouvert, c'est pas ouvert. En fait, comment ça se passe? Donc, non, vous pouvez aussi ne pas vous déterminer, dire voilà, moi, je sais pas vers où je vais, je suis prêt à faire des rencontres, mais pas forcément avoir ce truc de on va vivre ensemble. Je fais juste une dernière parenthèse sur attention aux rencontres où il y a des articles à New York là-dessus en particulier. Les apparts sont tellement chers, et c'est le cas aussi à Paris, qu'il y a des hommes où leur technique, c'est la technique du coucou en fait. Ils cherchent un appart, ils ne cherchent pas quelqu'un. Et donc, ils demandent très 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 vite, moi ça m'avait marqué dès le premier date, mais comment il est ton appartement? Enfin, tu peux me décrire, c'est quoi le loyer, comment ça se passe? Je suis plus intéressée par mon appartement que par moi. Non, parce que moi, là, je suis entre deux apparts depuis un petit moment, j'aimerais bien m'installer, enfin, quand on se connaîtra mieux. Hein. Et tu dis, mais oui, alors non. Et donc, attention à ça, peut-être à pas forcément devenir la personne qui va héberger. Il y a eu beaucoup ça aussi pendant les confinements. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se confiner ensemble? Enfin, on se connaît pas depuis longtemps, mais je pense que ça pourrait bien marcher. Mais non, en fait...
J'ai une prof d'anglais qui m'a dit, il y a une étude qui a été faite en Angleterre sur le bonheur. Et en fait, il est révélé que chez les femmes, les plus heureuses, ce sont les célibataires, et que les hommes les plus heureux, ce sont les hommes mariés. Donc ça veut dire qu'un mec, pour être heureux, il a besoin d'être qu'on s'occupe de lui, alors qu'une femme, pour être heureuse, en fait, elle a pas besoin des hommes. Et je trouve que ça en dit long. Ils ont plus besoin d'eux qu'on a besoin d'eux, en fait, tu vois.
Clairement.
Parce qu'en fait, les hommes, ils ont besoin d'être qu'on s'occupe d'eux, malheureusement. Donc, pardon pour la généralité, mais c'est vrai que les petits garçons, j'ai l'impression qu'on les éduque moins à être autonomes. C'est un peu le problème, tu sais, des... Comment ils s'appellent? Les incels.
Oui.
Tu sais, où on leur promet qu'un jour, une femme merveilleuse va s'occuper d'eux. Et du coup, ils attendent la personne qui va remplacer leur maman. Et ils apprennent pas du tout l'autonomie, en fait. Et nous, finalement, on a tellement l'habitude de se démerder que...
Et de prendre soin des autres aussi.
Et oui. Donc, bon. Qu'on a un appart, nous. Voilà.
Voilà, c'est ça. En général, on s'est à peu près débrouillé. Alors, bien sûr, si vous êtes encore chez vos parents ou en colocation, il n'y a pas de souci, hein, mais vous verrez, regardez autour de vous, surtout si vous êtes dans une grande ville, je ne pense pas qu'à Paris, regardez si vous avez la trentaine à peu près. Ouais, la trentaine. Regardez comment ça s'est passé au niveau logement pour les copines et puis pour les copains. Il y a des stats là-dessus, vous allez voir, c'est assez intéressant.
Mais c'est drôle parce que du coup, je pense au père de ma fille. Parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, il était toujours avec son ex, mais ils étaient en train de rompre. J'ai pas brisé leur couple, ils étaient déjà en train de rompre. Et en fait, il est passé de chez elle à chez moi. Et en fait, il laissait tout de suite. Mais j'aime beaucoup le père de ma fille, hein, c'était avec plaisir. Et après, quand je l'ai quitté, du coup, il fallait qu'il parte de chez moi. Donc, j'ai appelé son meilleur ami. Je lui ai dit, tu sais, on vient de rompre. Est-ce que tu peux l'héberger quelque temps? C'était il y a 5 ans. Il est toujours chez lui.
Ah oui.
Et depuis, le meilleur ami, il a acheté une maison dans le sud. Et du coup, il a laissé l'appart à Paris à mon ex. Mais du coup, je lui ai dit, waouh, ah oui, impressionnant.
Il y a un sujet logement.
Il est passé de son ex à moi, à son meilleur ami. Oui, il est génial. Alors, le père de ma fille, beaucoup d'humour, très sympa et tout, mais tout ça avec beaucoup de simplicité.
Moi, je pense que ça dit quelque chose de ne pas prendre acte, prendre date et dire, allez, on y va, on cherche un appart. Et il y en a qui vont le dire, mais moi, je n'envisage pas un appartement seul. Je n'arrive pas à imaginer ça. Et ouais, je crois que j'en ai au moins un dans mes anciens amants qui est toujours dans un petit appartement qu'un de ses amis ou voisins lui a prêté. Et je me dis, mais comment tu fais quand tes fils y viennent? Alors, bah, il me prête une autre aile du truc qu'il a. Enfin, mais c'est temporaire. C'est un temporaire qui dure depuis 2020 quand même. Enfin, je sais pas, pour le bien de tes enfants peut-être. Mais voilà, j'essaie de pas juger.
J'essaie de trouver un exemple féminin pour essayer d'équilibrer, mais j'en trouve pas.
Bah, c'est ça.
Bah, j'ai pas de copine qui se laisse aller dans un petit appart. Ouais, j'avoue que...
Il y a un truc.
Ah ouais.
Ouais, ça, je pense qu'on trouverait des informations dans le livre de Mona Chollet, Chez Soi, où il y a ce truc de cocon, de il faut qu'on soit bien, c'est notre lieu de sécurité. Et donc, on peut pas, même peut-être dans la précarité, on va essayer de trouver des solutions, mais pas végéter comme ça pendant des années, à être à droite, à gauche. Il va falloir qu'on se pose, quoi. Et ils ont pas forcément tout ce sujet côté
garçon. Surtout pour la santé mentale, c'est très, très important.
D'être ancré, quoi.
Ouais, chez soi.
Alors, je pense qu'on arrive vers la fin. Oui. On a quand même parlé du livre, mine de rien, tout en faisant des digressions. Ouais. Donc, je vous recommande vivement ce livre qui s'appelle Le jour où j'ai rencontré le connard de trop. Est-ce que tu avais une dernière, peut-être, dédicace à faire, ou un artiste, ou une artiste, ou quelqu'un que tu soutiens et t'aimerais peut-être faire un petit big up?
Oui, alors j'étais jury au festival Histoire de Femmes à Dreux, il y a quelques mois. C'est un festival génial qui donne la parole aux femmes. Et donc j'ai vu un court-métrage d'une jeune femme qui s'appelle Cécile Cournel, qui a fait un clip qui s'appelle « Maman m'avait dit », où on se met à la place d'une femme qui rentre chez elle seule le soir. Et c'est vrai que quand on est un homme, de regarder ça, ça permet d'avoir une bonne idée de ce que ça fait, nous, de rentrer quand il fait nuit, toute seule. C'est exactement ça. Elle a très bien résumé cette situation et je vous invite à aller voir ce clip. Elle s'appelle Cécile Cournel.
Merci beaucoup, Christine.
Avec plaisir.
Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applications de podcast et balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Merci à ceux et celles qui ont mis des notes, des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, partout. Ça aide vraiment à faire remonter le podcast. Merci aussi aux personnes qui ont mis des sous, même 1 euro, je prends, sur Tipeee. Ça aide à payer la production, le montage de ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.